Nous allons passer maintenant au message. On va écouter la parole de Dieu parce que c'est vraiment pour ça qu'on est là. On loue le Seigneur dans notre imperfection, on va dire, mais la parole de Dieu est parfaite. Voilà. Donc, c'est aussi pour cela que je suis chrétien évangélique baptiste. Je le suis par conviction parce que la parole de Dieu est au centre. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu dit. Pas ce que nous pensons, mais ce que Dieu dit. Alors, je ne dis pas qu'il y a que les baptistes qui sont comme ça, mais. Moi, c'est les baptistes que je connais, vous voyez. Et pour moi, ce qui m'a interpellé quand j'étais jeune chrétien, c'est le fait que la parole de Dieu est au centre. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Alors, je vais prier pour que le Seigneur puisse bénir sa parole. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi pour te remettre ces moments, Seigneur. C'est ta parole, nous la respectons, parce que nous t'adorons, toi, Seigneur. Nous te prions pour que ce matin, tu nous enseignes, Seigneur Jésus. En ton Seigneur. Amen. Vous savez, les frères et sœurs, et pour ceux qui prêchent, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Priez systématiquement le samedi soir pour ceux qui vont prêcher. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut vivre lorsqu'on prépare une prédication. C'est un véritable combat. C'est un combat. Moi, j'ai préparé les choses depuis hier, et depuis hier, j'ai eu des problèmes avec mon message. Ça apparaît, ça disparaît. ce matin encore. On a failli être en retard pour cela. Voilà, on a tout préparé, j'ai tout préparé. Et là, il y a quelques secondes, c'est parti. Voilà, donc je suis sur une vieille version de ce que j'ai préparé. Vous voyez ? Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant ce que je vous dis. Parce que c'est le thème du message. Le thème du message, alors, est-ce que je le dis maintenant ? Bon, je ne le dis pas maintenant. Vous allez le découvrir. Voilà. Alors, je vous invite à prendre Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Versets 18 à 25. Je pense que ce texte mérite qu'on le lise. Matthieu 1, 19 à 25 que je vais vous lire. Un texte que nous connaissons très bien. Verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'il eussent habité ensemble. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, verset 22, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Verset 25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel elle donna le nom de Jésus. Alors j'ai donné un titre à ce message qui est l'obéissance silencieuse. L'obéissance silencieuse. Alors Noël, eh bien, c'est la venue du Seigneur Jésus. Chaque année, on entend parler de Noël, nous fêtons la Noël, nous parlons du Sauveur, et c'est très très bien. On pense aux anges, on pense aux bergers, aux mages, n'est-ce pas? Et bien sûr à Marie. Mais il y a un homme dans la Bible, moi j'aime bien ces personnages-là. On n'entend pas parler de lui. On va dire qu'on n'en parle pas souvent. Et bien cet homme, c'est le mari de Marie, Joseph. Joseph ne fait pas de vagues, il ne fait pas de miracles, ce n'est pas quelqu'un qui a prononcé des discours incroyables, et pourtant il a joué un rôle incroyable dans le salut des êtres humains et des animaux. Mais pour jouer ce rôle, cet homme a dû accepter de changer de projet pour laisser s'accomplir le plan de Dieu. Je pense que vous avez vu où on va. Si Joseph avait refusé d'obéir, bien sûr que Dieu aurait trouvé un autre moyen pour accomplir sa parole. Il est tout puissant. Mais vous savez que Dieu, le Seigneur, a toujours choisi, a toujours voulu que les êtres humains participent à son plan. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que vous êtes, est-ce que je suis ouvrier avec Dieu? Alors ce verset nous montre bien sûr que Dieu veut associer les êtres humains dans son plan. Dieu a choisi d'accomplir son plan de salut à travers l'obéissance silencieuse de Joseph. Vous avez remarqué, Joseph est apparu et Joseph a disparu. Il y a des personnages dans la Bible comme cela. Mais nous, on aime souvent se faire remarquer. On aime bien que les gens se souviennent de nous et qu'ils voient ce qu'on a fait. Cet homme est arrivé, il a fait ce qu'il fallait faire et on n'entend plus parler de Joseph. Mais Joseph a accepté quelque chose d'extraordinaire et c'est ce que nous allons voir ce matin. Il a accepté que Dieu arrête ses projets à lui pour que son plan du salut se mette en place. Alors, ce matin, frères et sœurs, acceptons. Acceptons que Dieu bloque, bouleverse nos projets pour que sa volonté se fasse. Parce que c'est là souvent notre problème. On aime le Seigneur, on le suit tant que lui suit notre projet. Mais quand il doit arrêter notre projet, c'est là où notre foi est vérifiée. Et c'est très dur, hein. On est comme ça, hein, quand on planifie quelque chose, on commence à travailler sur la chose, on prend le chemin de ce plan, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient arrêter cela. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'aime pas ça. Voyez. Mais ce que cet homme, Joseph, a vécu, je ne suis pas suivi pour que les gens qui puissent vivre ça. On va voir ça. Laissons le Seigneur changer nos projets pour réaliser son plan. Alors, ce matin, nous allons voir dans ce texte comment Dieu peut bouleverser nos projets pour accomplir son plan au travers de la personne de Joseph. Alors, que s'est-il passé? D'abord, le plan de Dieu bouleverse les projets de Joseph en lui révélant une vérité qui dépasse sa compréhension. Et je pense qu'il va dépasser notre compréhension si on prend le temps un petit peu de se concentrer sur ça. Dieu va bouleverser les projets de Joseph en lui révélant une vérité qui va dépasser sa compréhension. Il est dit au verset 20, comme il y pensait, donc Joseph, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bon, alors, que se passe-t-il? Marie est enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Elle est en train d'accomplir la promesse messianique. Joseph, qui était un jeune homme, parce que je ne sais pas, souvent quand on parle des auteurs bibliques, on pense tous que c'était des grands barbus, là, comme ça, des petits vieux. Non, c'était un jeune homme. Joseph découvre cette situation incroyable. Vous allez vous marier, les garçons, hein. Vous allez vous marier, vous êtes fiancés. Et puis, votre femme est enceinte. Enfin, votre future femme est enceinte. Combien d'entre nous ici pourraient supporter ça? Et Dieu demande à Joseph d'accepter ça. Bon, alors, voilà la situation de Joseph. Il se retrouve devant une femme qui doit épouser, mais qui est déjà enceinte. Vous savez, parfois, lorsque Dieu veut se servir de nous dans son plan, il nous révèle des choses qui ne sont pas prévues. Il nous révèle des choses qu'on ne comprend même pas. Alors, ce qu'il va faire le Seigneur, c'est qu'il va se servir de cet homme, Joseph, qui va bientôt se marier et lui dire, ta femme est enceinte, prends-la quand même. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'il parle à un juif? Il faut vraiment se mettre dans le contexte. Un juif pratiquant, C'était un juif qui a vraiment foi en Dieu, mais qui pratique, c'est un juif pratiquant. Et on dit à ce juif pratiquant, hein, que tu veux épouser cette femme-là qui est enceinte. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour lui, c'est un scandale, c'est terrible. Épouser une femme qui est déjà enceinte. Joseph va obéir. Il va obéir. Alors, j'ai essayé de me mettre à la place de Joseph, et très franchement, je n'y arrivais pas. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, vraiment, là, je n'y arrive pas. Comment cet homme a pu obéir à Dieu dans cette situation? Parfois, on a des projets. Toutes sortes de projets. Des projets qui sont formidables et d'autres qui sont moins formidables. Imaginez-vous un instant que quelqu'un vous fasse vraiment du mal. Mais vraiment, hein, du mal. Et vous lisez la parole de Dieu et Dieu vous montre clairement qu'il ne faut pas vous venger. Et que vous aurez absolument toutes les raisons de vous venger. Dieu dit, ne le fais pas. Parce que vous avez lu la parole de Dieu qui vous dit, ne le pas le faire. Est-ce que vous allez aller au bout de la mission que vous êtes donnée de vous venger ou pas? Alors là, vous allez dire, oui, mais ça c'est évident, la parole de Dieu nous dit, ne pas faire certaines choses. Voilà. On est des chrétiens, on ne le fait pas. D'accord. Mais il y a des situations encore plus compliquées. Vous n'avez pas beaucoup d'argent. Je crois que quand on parle un peu d'argent, ça interpelle un peu plus. Vous n'avez pas grand-chose, vous estimez que vous n'avez pas grand-chose. Et puis, l'Église décide un projet. Un projet pour aider quelqu'un, je ne sais pas, qui est dans cette situation pire que la vôtre, on va dire. Ou peut-être pas. Et là, Dieu va vous convaincre de prendre le peu d'argent que vous avez pour donner pour aider cette personne. Alors que vous, votre projet, avec cet argent, c'était de faire autre chose, hein, et nécessaire. Et là, Dieu vous dit, cet argent, tu prends et tu donnes à l'Église pour aider cette personne-là. Est-ce que vous allez le faire ou pas? Beaucoup d'entre nous se retrouvent souvent dans ces situations compliquées. C'est-à-dire dans une situation tout à fait légitime, pour utiliser notre argent de manière légitime. Et puis là, on sent bien que Dieu nous dit de faire autre chose avec. Est-ce que je vais le faire ou pas? Et là, notre foi est mise à rude épreuve. Voici avoir un projet professionnel, un projet scolaire. Et Dieu, encore une fois, dans ce projet, va vous révéler que votre échec est nécessaire pour préparer quelque chose qui est prévu dans son plan. Et Dieu veut que vous soyez en échec. Le mot échec est quelque chose d'insupportable pour nous. Comment Dieu peut prévoir que je sois en échec? Quand vous passez un examen, à condition d'avoir bien travaillé, de travailler sérieusement, je ne parle pas de fainéant. Ne dites pas vos parents que non, mais le pasteur a dit qu'on pouvait être en échec parce que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous avez étudié sérieusement et puis vous n'avez pas réussi votre examen. Alors, vous avez été sérieux. Est-ce que ce n'est pas possible que Dieu prévoie cet échec pour vous orienter ailleurs? Non, mais je le dis parce que c'est très important. Ce sont des choses qu'on... C'est très important. Vous pouvez avoir même un projet professionnel. Moi, j'ai vu des frères qui sont tombés dans la crise parce qu'ils ont fait un projet, c'était parfait et ça n'a pas marché. Ils sont colère contre Dieu. Alors, c'est pour ça que ce matin, je vous ai dit que mon problème est préparation de prédication. Alors, je prépare cette prédication. Je vais bien faire ma prédication. Vous savez, on ne sait pas quand on prépare une prédication, on prépare tout, on met ses repères pour ne pas oublier ceci, tout cela. Et puis, piou, le truc a disparu. Et le Seigneur me dit, mais c'est ce que tu vas peut-être chercher ce matin. Tu as prévu que ton projet, c'était ça, n'est-ce pas? Eh bien, je te l'enlève. Tu te comprends comment? Vous vous rendez compte de venir derrière le pupitre et de ne pas avoir sa prédication prévue? Vous n'avez pas idée de ce que c'est, hein? Dieu peut prévoir des échecs dans votre vie. Acceptez-le si vous avez été sérieux. C'est très important. Parce que dites-moi, comment Dieu peut vous diriger s'il ne prévoit pas des échecs dans votre vie? Est-ce que vous voulez entendre la voix de Dieu? Est-ce que vous supportez d'entendre la voix de Dieu? Moi, je le dis à chaque fois, Seigneur, ne me parle pas, c'est très bien comme cela. Parce que le jour où tu me parles, je ne sais pas dans quel état je serai. Vous voyez? Bah, souvent, on entend des choses comme cela. Dieu peut tout à fait prévoir des échecs dans votre vie pour vous réorienter. Le chrétien ne se fâche jamais, et surtout pas contre Dieu. Dans la mesure où on est dans les mains de Dieu, les échecs ne sont plus des échecs. Ce sont des directions. Très important. Dieu peut même mettre parfois quelqu'un dans votre, sur votre chemin que vous devez servir, et cette personne, vous ne l'aimez pas. Et quand je dis que vous ne l'aimez pas, ce n'est pas parce qu'il a été blessé en réalité, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien, vous voyez ? Voilà. Vous pouvez être embauché dans une société et le patron est par exemple raciste, je ne sais pas. Et vous dites, puisqu'il est raciste, donc Dieu veut que je n'aille pas dans cette société. Non ! Ce n'est pas une chose, ça n'a absolument rien à voir. Vous y allez quand même et vous servez le Seigneur. Parce que vous allez être un témoin dans cette société-là. Vous ne savez pas pourquoi. Ce que je suis en train de dire, c'est que on peut tout à fait prévoir beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui décide à la fin. Ne soyons pas esclaves de nos projets. Et Joseph n'était pas esclave de son projet. Son projet, c'était d'épouser Marie. Et ensuite, quand il a découvert qu'elle était enceinte, c'était quoi son projet ? De se séparer d'elle. Et c'était tout à fait juste qu'il le fasse. C'était juste qu'il se sépare d'une femme qui semble être commis l'adultère. Hein. Voilà. Et là, il était obligé, parce que Dieu lui a parlé, de revenir sur sa décision et de suivre plutôt le plan de Dieu. Dans Ecclésias chapitre 3, verset 1, il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et ce temps-là, c'est le temps de Dieu. Apprenons à accepter le temps de Dieu. Dieu peut même susciter parmi vous, je ne sais pas, souvent on n'y pense pas, des vocations. Imaginez un instant que Dieu vous donne, pour certains ici, vous avez un métier, vous gagnez 10 000 euros par mois. Bon, je sais que c'est. Hein? J'exagère toujours parce que. Quoique, hein? Il y en a comme ça. Hein? Vous avez un métier, vous êtes marié, belle famille, salaire mensuel 10 000 euros, et Dieu vous convainc de rentrer dans le ministère pour être pasteur pour gagner 1 500 euros. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Vous avez peut-être 75 ans et Dieu vous appelle à être pasteur. Oui, mais je suis trop vieux. Mais il n'y a pas d'âge pour ça. Nos projets sont surpassés par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide. Si nous n'avons pas ça dans la tête, on ne peut pas marcher avec le Seigneur. Il faut être prêt à accepter que le plan de Dieu s'accomplit, voilà, dans notre vie et mettre de côté nos projets. Sinon, en quoi est-ce que nous sommes des chrétiens obéissants? Noël nous rappelle qu'il s'agit de personnes obéissantes. Vous allez voir, du commencement à la fin, tous les personnages qui sont intervenus dans l'histoire de Noël, ce sont des gens qui étaient obéissants et qui avaient une obéissance silencieuse, c'est-à-dire qu'ils ne râlaient pas quand il fallait faire quelque chose. Joseph a écouté et Joseph est allé faire ce que Dieu lui a dit de faire. Pour ceux qui ont des projets, parce que c'est souvent ça notre problème. Jacques chapitre 4, verset 13 à 15, nous dit, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons. » J'ai vécu ça, j'ai des affaires avant. Hein. Voilà. Et nous gagnerons, et souvent on ne gagne pas du tout. Hein. Voilà. Mais on croyait toujours qu'on allait gagner. Hein. Voilà. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. » Les gens se comportent comme s'ils maîtrisaient le monde. Vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Est-ce que nous prenons conscience que notre vie est réellement dans la main de Dieu? Ou est-ce que Dieu a ses limites? C'est que quand nous, on ne veut pas, dès qu'il touche à notre projet, c'est fini. Il ne peut plus intervenir. Nous devons accepter que le plan de Dieu bouleverse nos projets. Mais entendre Dieu ne suffit pas. Faudrait-il encore obéir à ce que nous avons entendu? Et c'est ce que va faire Joseph. Le plan de Dieu bouleverse les projets de Joseph, cette fois-ci en redéfinissant ses responsabilités. Regardez, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Non seulement il doit accepter que sa femme soit enceinte, pas de lui, mais en plus il doit s'occuper même du bébé. Je ne sais pas si on se rend compte de ça, parce que chaque année on entend l'histoire, hein. On a l'habitude d'entendre cette histoire. Mais dans cette histoire, il y a des choses terribles. C'est une histoire dramatique, on peut dire. Voyez. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. J'imagine Joseph qui dit, en plus, c'est moi qui lui donne, en plus, je m'occupe de lui en plus, Seigneur. Et Seigneur dit, oui, tu vas t'occuper de lui. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc le plan de Dieu ne va pas se contenter d'informer Joseph. Il va redéfinir sa responsabilité, son rôle pour cet enfant. Alors, la responsabilité d'abord de nommer l'enfant. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, l'homme Joseph, qui voulait se retirer discrètement, parce qu'il est bon, hein, Joseph, vous avez vu, quand il a découvert que sa fiancée était enceinte, il a voulu se séparer d'elle secrètement. Vous voyez, on voit déjà le cœur de cet homme. Ah, je ne sais pas si on est tous comme ça, parce que parfois on est dur, quoi. On est dur, même entre nous. Hein. On est souvent impitoyable. Hein. Voilà. Souvent, on a l'impression que parce qu'on a raison, on a le droit d'être dur. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. J'ai raison, alors, bah, je te rends dedans. Cet homme était doux. Alors, et ça, c'est véritablement l'amour. Quand on aime quelqu'un, on protège cette personne, même si on doit dire certaines choses. Tout à fait juste, vous voyez. Il voulait se séparer de Marie secrètement pour ne pas qu'elle ait des problèmes. Parce que vous savez quel type de problème elle aurait pu avoir? Lapidation. Ça vous rappelle une scène, ça, non? La scène de ces gens, hein, pharisiens, entre autres, qui voulaient lapider la femme adultère et qui ont voulu piéger le Seigneur Jésus. Vous avez vu comment il a retourné la situation du Seigneur? Voilà, ça c'est une autre prédication qui va venir aussi, ça. Comment on peut se lever pour lapider un être humain et être fier de ça? Et s'attendre à quoi? Que le Seigneur Jésus dise, oui, lapidez-la. Voilà. Et alors Joseph avait ce cœur-là, elle a dit non. Même si je ne peux pas l'épouser, je l'aime cette femme. Et puis pour quelles raisons? Non, pas question pour la lapider. On va se séparer secrètement. Quand quelqu'un nous fait du mal, est-ce qu'on essaie de régler le problème secrètement? Nous, on est concernés, quand c'est nous qui avons fait le péché, non, on dit que c'est un secret. N'est-ce pas? Mais quand c'est les autres qui sont concernés, on va en parler à Paul, Pierre, Jacques, et puis on va. Vous voyez, c'est pas terrible. Vous voyez? Après, chercher à savoir comment agir dans telle ou telle situation, ça c'est une chose. Là, vous êtes le bienvenu, hein, vous pouvez parler avec moi par rapport à cela. Vous voyez? Mais là, Joseph a voulu le faire secrètement parce qu'il l'aimait véritablement. Marie, et surtout parce que c'était quelqu'un qui avait un cœur formidable. Donc Joseph va avoir désormais la responsabilité non seulement de prendre soin du Seigneur Jésus, donc le bébé Jésus, mais surtout de protéger le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu doit s'accomplir, il avait bien compris que c'était le plan de Dieu. En acceptant de garder Marie et de s'occuper de l'enfant Jésus, Joseph devient le gardien humain d'une œuvre de Dieu. Est-ce que nous sommes ça? Est-ce que nous avons gardé l'œuvre de Dieu, protégé l'œuvre de Dieu? Alors parfois, on est dans cela, mais on réagit souvent très mal dans certaines situations. Ce n'est pas parce qu'on tient à ce que l'œuvre de Dieu se passe bien qu'on peut être nous-mêmes des gens brutaux. Hein? On ne peut pas faire cela. Toujours la douceur dans ce que nous faisons. Joseph n'a pas choisi les responsabilités de s'occuper de Jésus, ça lui a été donné par Dieu. Et c'est parce que ça vient de Dieu qu'il a accepté de le faire. N'est-ce pas? Mais il avait son confort, cet homme. Il n'avait pas de problème. Il avait un confort, il était tranquille. Et tout d'un coup, ses projets sont complètement bousculés par Dieu. Comment on passe de quelqu'un de tranquille à quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il faut maintenant servir, où il faut faire plein de choses et avoir des responsabilités qui ne lui incombent pas au départ? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une adoption, ce que c'est qu'adopter quelqu'un. Moi, je suis un enfant adopté. Et je comprends, j'ai compris plus tard pourquoi j'ai traversé autant de situations. C'était pour comprendre. Lorsque mon père, qui a épousé ma mère adoptive, qui était ma mère adoptive, je ne sais pas comment on peut appeler cela, vous voyez, lorsqu'elle a épousé, elle nous a pris, mon frère et moi, auprès d'elle. Vous voyez, elle s'est occupée de nous. Et à un moment donné, mon père s'est séparé d'elle. Mais je vous assure une chose, les frères, il n'y a pas eu une fois où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? J'y ai pensé après, pas pendant. Elle n'a jamais pensé à ce instant que parce qu'elle se séparait de mon père, qu'il fallait se séparer de ses enfants. Elle m'a gardé et s'est occupée de moi jusqu'au bout. Et même, on a pleuré ensemble parce que papa n'était plus là. Donc, il fallait s'occuper de mes petits frères ensuite et on est restés ensemble. Et vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus était dans ce foyer. Ça faisait la différence. Il n'était pas pensable pour elle de se séparer de son petit Jean-Louis. Ce n'était pas possible. Adopter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a adopté le Seigneur Jésus. Il en a pris soin, prendre son enfant. Il l'a protégé jusqu'au bout. Si on a des projets de ce type, par exemple, où on se marie, et puis à un moment donné, peut-être que Dieu nous impose quelque chose comme ça, quelqu'un dont on doit s'occuper. C'est une grâce que d'avoir un enfant s'occuper. Ne dis pas, est-ce que j'ai entendu, ce n'est pas mon enfant, je ne peux pas m'en occuper. Ou alors d'autres, ceux qui sont remariés, qui ont rejeté finalement l'épouse à cause, parce que cette femme avait déjà un enfant. Mais c'est une grâce que ça m'occupait. C'est beau de faire cela. On est en train d'accomplir ce que Joseph a fait, adopter quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un qu'on adopte qui n'est pas notre enfant? Oui. C'est extraordinaire. L'enfant devient véritablement son enfant. Et maman, qui m'a adopté, on va dire, elle m'a aimé. Elle était fière. Alors, moi, je le dis parce que elle était fière de moi. Elle était fière de moi et... Alors, parfois, j'ai peur de dire certaines choses parce que je ne sais pas si mes frères et sœurs vont entendre pas le message. C'est compliqué, hein, vous voyez. Mais elle avait peut-être une préférence pour moi. Ça reste entre nous. Si un jour ma sœur, mon frère vient ici, ne dites pas ça, hein. Tout ce que ma mère faisait, c'était par rapport à Jean-Louis et sa famille. Mes enfants, c'était ses petits-enfants. Quand est-ce qu'ils devaient me voir? Voilà, c'était tout le temps ça. Adopter. Le Père nous a adoptés. Nous sommes des enfants adoptifs du Père. Et il nous aime parfaitement. Au point même où son fils a versé son sang pour des enfants adoptés que nous sommes. Il faut penser à ça. Ça va nous aider à être bons envers les autres. Joseph a adopté le Seigneur Jésus. Dieu peut, par rapport à ce point que nous sommes en train de voir, redéfinir nos responsabilités parce que ce sont plans, parce qu'il a voulu. Il faut accepter, en tant que chrétien, que Dieu change nos responsabilités. Très important. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour vous, hein, vous qui êtes futurs mariés avec les jeunes. Si Dieu vous met dans cette situation, acceptez d'adopter un enfant. C'est une grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a des responsabilités que Dieu vous met à cœur que vous rejetez de lui? Pensez à ça. Y a-t-il des choses que vous pouvez faire ici, dans cette église, et vous dites non, je ne fais pas? Alors c'est le plan de Dieu que vous fassiez ces choses-là. C'est aussi pour cela que nos églises n'avancent pas, parce que souvent on fuit ces choses-là. Tant que ça ne me plaît pas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Très souvent, on nous appelle à faire des choses. Dieu nous appelle souvent à faire des choses que nous n'avons pas prévues. Hein. Je n'ai jamais prévu d'être pasteur, hein, je vous assure. Jamais, hein. Bon, moi, ce n'était pas compliqué. Beaucoup de gens souvent, j'entends les pasteurs dire, oui, j'ai abandonné certaines choses pour devenir pasteur. Moi, j'ai rien abandonné. Moi, j'ai tout lu. En fait, j'étais complètement perdu dans la vie. Je trouvais la vie stupide. Voilà. Alors, le Seigneur m'a dit, bon, quand tu trouves la vie stupide, tu m'intéresses bien. Ne mettez pas de limites dans votre responsabilité dans l'Église. Regardez dans l'Église ce que vous pouvez faire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu se sert de l'Église. Toutes choses passent au travers de l'Église. Tout passe par l'Église. Voilà. Ne fuyez pas ces choses-là. Le Seigneur a besoin de vous pour servir dans son œuvre. Et quand Dieu appelle quelqu'un, ne vous inquiétez pas, il équipe. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en public. Hein. Ma vraie nature, je suis dans mon coin caché, on ne me voit même pas. Et si elle dit, ah, tu m'intéresses, viens, on va te voir. Ouais, c'est ça, c'est le Seigneur. Mais si d'emblée vous êtes vous devez bien vous montrer et parler comme ça, bon, c'est pas clair. Non, laissez le ministère, c'est pas la peine. Le Seigneur, il a besoin des gens qui ont peur. Et après, il les façonne pour leur donner du courage. C'est comme ça qu'il fait. C'est ce qu'il a dit à Jésus. N'aie pas peur, vas-y. Ni à droite, ni à gauche. Fortifie-toi, prends courage. Voilà. C'est comme ça que le Seigneur fait. Quand Dieu vous appelle, il vous équipe. N'ayez pas peur ensuite de rentrer dans le ministère. Nous avons besoin de personnes dans le ministère. Beaucoup d'églises n'ont pas de pasteur. Vous savez même ce que vous avez vécu. avons tous vécu ici. Pensez au ministère. Ne mettez pas des barrières au plan de Dieu. Ne dites pas que ça ne s'est pas fait pour moi. Si vous dites que ce n'est pas fait pour vous, c'est peut-être fait pour vous, justement. C'est important. Voilà. Parce que vous ne serez heureux que là où Dieu veut que vous soyez. C'est le seul endroit où vous serez heureux. Ça ne sert à rien de fuir. Ça fait penser à la jeunesse. Ça ne sert à rien de fuir. N'ayez pas peur de changer de direction professionnelle. J'en ai parlé tout à l'heure. N'ayez pas peur. Dieu peut même arrêter votre projet professionnel pour vous orienter, pour réorienter. Obéissez à l'appel de Dieu. Alors parlons de responsabilité. On a une sœur à l'église de Paris qui a dû changer de responsabilité en tant qu'épouse. Ça, c'est un cas qui est très intéressant. On a tous appris que l'épouse est soumise à son mari. C'est le mari qui est le chef du foyer, n'est-ce pas? Et elle a vécu une situation où Dieu a dû la réorienter. Parce qu'une situation s'est présentée. Quelle est cette situation? Son mari a eu plusieurs fois un AVC. Il n'était plus capable de s'occuper de la famille en tant que chef de famille. Elle est devenue la chef de famille. Mais vous savez ce qu'elle fait? Elle dit, Jean-Louis, mais je suis quand même soumise à mon mari. La spiritualité d'une femme, les filles, écoutez-moi, j'en profite, hein, c'était pas prévu. Hein. La spiritualité d'une femme, là où Dieu vous attend, c'est dans ce domaine-là, la soumission. C'est insupportable. C'est pour cela que c'est bon. Parce que les filles, vous savez ce qui se passe? Quand vous prenez le pouvoir, les hommes fuient. Et Dieu veut que les hommes soient responsables. Et très franchement, heureusement qu'il y a une femme dans l'histoire de l'Église. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup sont partis à la guerre et ce sont les femmes qui ont fait le travail derrière. Et elles ont fait avec elles ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà, tout en restant vraiment dans leur limite, elles ont servi le Seigneur. L'Église du 10e, 19e arrondissement de Paris, le tabernacle, je crois. Exactement. Voilà. Et beaucoup étaient partis à la guerre et ce sont les femmes qui ont pris. Donc, les sœurs, on vous aime, hein? On aime ce que vous faites, mais parfois on va rectifier, c'est le jour. Enfin, ça, c'est le pasteur, ça va. Voilà. Mais sinon, on veut qu'on prenne des responsabilités dans l'Église, dans la limite de ce que le Seigneur veut. Vous voyez? Parce que ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. Pour que les hommes puissent, eux, s'élever, et c'est ce que Dieu veut. Vous voyez? Quand on suit les projets de Dieu, quand on suit le plan de Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais n'ayez pas peur des responsabilités. Et Dieu peut vous appeler à beaucoup de choses. Mais que nos rôles, nos responsabilités soient toujours empreintes d'humilité. Et plus vous êtes invisible, et plus vous êtes fort. Vous savez, les femmes, plus vous êtes discrète, et plus les hommes vous craignent. Beaucoup de femmes se trompent et pensent qu'il faut se montrer. Non, on craint les femmes qui sont discrètes. On s'en méfie, on est oulala. De telle sorte, le jour qu'elle part, si vous parlez tout le temps, il n'y a plus rien, c'est fini. Parce que Dieu ne veut pas qu'une femme parle trop. Une femme, c'est la discrétion. Plus de discrétion, plus de terre. Bon, vous voyez, ça commence à ressembler un petit peu mes études là, de jeunes mariés. Hein? Voilà. Je vous donne les éléments pour être vraiment des femmes. Hein? Voilà. C'est important, une femme. Hein? Moi, c'est une femme qui s'occupait de moi, hein, ma mère. D'ailleurs, toute ma vie, c'est que des femmes. Voilà, j'ai eu que des sœurs, des grandes sœurs, des cousines qui s'occupaient de moi parce que maman était trop jeune, était à l'université, parce que le papa n'était pas là. Et ce sont des femmes qui s'occupaient de moi. Je suis très reconnaissant pour ça. Mais une femme qui est vraiment dans son rôle, elle peut faire des choses incroyables. Des choses incroyables. Donc, Dieu peut tout à fait réorienter, redéfinir nos responsabilités, et c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph, tu n'auras pas d'enfant pour l'instant, d'enfant biologique. Moi, je te donne un enfant. Voilà, c'est mon fils, tu en prends soin. Et Joseph s'est occupé du Seigneur Jésus parfaitement. Nous allons voir le dernier point maintenant, qui est un point très important. C'est-à-dire que le plan de Dieu bouleverse aussi les projets lorsque Dieu attend de nous un sacrifice. C'est-à-dire. Le plan de Dieu bouleverse les projets de Joseph en exigeant de Joseph des sacrifices. Des sacrifices pour protéger ce qui est précieux. Au verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Et Jean-Pierre dit, et il prit sa femme avec lui. Verset 24. Le plan de Dieu exige que Joseph accepte de payer le prix pour protéger Marie et Joseph sans bruit, sans revendication, dans une obéissance discrète et totale. Une obéissance immédiate. Dieu aime ceux qui obéissent immédiatement. J'ai été touché par un frère dont je ne dirai pas le nom, qui, dimanche dernier, il a entendu une prédication, juste à la fin de la prédication, il est allé régler le problème. Waouh! Toute la semaine, j'ai pensé à lui. Et j'ai même envoyé un message, je lui ai dit, waouh! Voilà ce que Dieu attend. Dès l'instant où on sait que c'est la volonté de Dieu, faisons-le! Parce que souvent, après une prédication, on est convaincu et on traîne. Et entraînant, on finit par oublier la résolution qu'on a voulu prendre devant le Seigneur. On le laisse tomber même, c'est fini. Dès qu'on l'entend, on est convaincu que c'est la volonté de Dieu, on le fait. Et c'est ce que Joseph a fait. Il agit immédiatement, sans discuter, sans négocier. Il prend au mot ce que Dieu lui a dit et il va l'accomplir. Les actes, voilà ce que Dieu attend. La vraie obéissance, ce sont les actes. Ce n'est pas d'être touché, oh, je suis touché Seigneur, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, fais-le. Là, tu as compris, là, tu obéis. Joseph doit donc sacrifier ses projets et sa réputation. C'est un juif. Sa réputation. J'ai entendu des choses terribles. Alors, je crois que c'est en Inde où parfois même des parents vont lapider leur fille parce qu'elle aurait commis l'adultère. Comment on peut lapider sa fille parce qu'elle a commis... C'est incroyable. Voyez, sa réputation. Ils l'ont fait pourquoi ces gens-là? À cause de leur réputation. La réputation, c'est tellement important pour certaines personnes, ma réputation. La réputation est importante, hein, dans le sens du témoignage, bien sûr. Mais ce n'est pas la réputation égoïste, de l'orgueil. J'ai ma fille, tu ne peux pas faire ça, tu es mort. Parce que c'est moi, c'est pas elle, c'est moi. Voyez, et ça cause beaucoup de problèmes. Joseph n'a pas tenu compte de sa réputation. Il a mis en application ce que Dieu lui a dit. Il a pris sa femme. Ça veut dire qu'il a accepté que Marie soit sa femme, malgré la situation. Donc Joseph assume Marie, cette femme enceinte, devant la société. Il accepte que les gens se moquent, parce que forcément, les gens l'ont vu enceinte comme lui. Hein. Mais imaginez quand même, vous voulez épouser une femme et puis tout le monde voit qu'elle ventre, elle vend, quoi. Hein. C'est compliqué. Vous voyez? Eh bien, Joseph, parce qu'il savait que ça venait de Dieu, il a accepté. Il a accepté les murmures, il a accepté aussi le jugement. Il n'a pas renoncé au plan de Dieu. Alors la question que je me suis posée, c'est, est-ce que nous, on a honte parfois de Dieu? Alors bien sûr qu'on va dire qu'on n'a pas honte de Dieu, on n'a pas honte du Seigneur, mais parfois, il nous met dans des situations où il faut témoigner de notre foi. Est-ce qu'on le fait? Ah, je ne peux pas le faire, je suis quand même ingénieur ici à la NASA. Les dieux. Est-ce que ça nous arrive d'avoir honte du Seigneur comme ça? De ce que les gens vont penser de nous? Ça m'arrivait souvent quand je faisais des affaires, je rencontrais des hommes d'affaires, voilà. Et à un moment donné, et c'est un signe formidable, à un moment donné, il faut donner témoignage. Dieu prépare. Des fois, c'est compliqué, on ne sait pas trop. Voilà. Et puis parfois, c'est là. Et là, tu sais que tu dois témoigner. Et là, tu réfléchis, tu dis, est-ce que je parle du Seigneur là ou pas? Si je parle du Seigneur là, peut-être que mon affaire ne marchera pas. Il ne voudra pas faire affaire avec moi. J'en lui parle. Bon, je vais parler au Seigneur. Et là, on commence à être balbutier un petit peu, vous voyez, un petit peu, et hop. Voilà. Ensuite, j'ai des VTC. Alors, homme d'affaires, VTC, ça c'est, voilà, ouais, j'ai tout fait là, voilà. Et je sais que c'est le Seigneur qui fait tout cela. Et quand quelqu'un montait dans ma voiture, là j'étais plus fort, hein. Je dis au Seigneur, si quelqu'un monte dans ma voiture, il n'est pas question que cette personne sorte de ma voiture sans avoir entendu l'évangile. Alors que c'était interdit. Hein. C'est compliqué des fois. Mais le Seigneur trouve toujours le moyen pour que je témoigne de ma foi. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on parle du Seigneur? Qu'est-ce que c'est bon? Vous voyez? Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait qu'on y a fait ce qu'il fallait faire. Et c'est ce que Joseph a fait. Il savait que ce qu'il faisait était bon aux yeux de Dieu. Il savait. Est-ce que vous avez honte parfois de parler de votre foi? C'est ça dont il est question. Joseph doit maintenant protéger ce que Dieu lui a confié. Il a compris sa mission. Il a pris Marie pour femme et il s'est occupé du Seigneur Jésus. Obéir au plan de Dieu implique toujours, ou bien je dirais souvent, des sacrifices. Mais nous, on ne supporte pas les sacrifices. C'est ça notre problème. On aime bien une vie chrétienne tranquille. Quoi. Pourquoi tout le temps ce problème de sacrifice? Pourquoi se sacrifier? Mais il y a le sacrifice du temps. Ce matin, on a été secoué par mon frère. Il faut être à l'heure. Voilà. Le temps aussi. Alors, on reconnaît qu'il y a des situations compliquées. Hein, c'est de le reconnaître. Hein. Vous sortez du travail, vous n'avez pas le temps de faire vos études bibliques parce que c'est une trop limite, c'est compliqué, vous habitez loin, on comprend. Hein, voilà. C'est tout à fait. Le Seigneur comprend toutes ces choses-là. Mais reconnaissons que souvent, nous gaspillons notre temps. Rachetez le temps, dit la parole de Dieu. On gaspille le temps dans plein de choses, et puis on donne très peu au Seigneur. Mais si on nous disait que le temps que nous gaspillons était rémunéré, oh, on serait tous des millionnaires, hein. Reconnaissons-le, hein. Ah là là, voilà. Le sacrifice du temps, sacrifice du confort. On aime le confort, c'est normal. Hein. On est prêt à servir le Seigneur, mais tant qu'il ne touche pas à notre confort. Le projet, j'en ai parlé, relation, on craint de perdre nos relations. Si on avoue qu'on appartient à Christ, hein, faites attention à ça. Parce que ces gens qui sont devant vous, là, ce sont des gens qui doivent être sauvés aussi. Ils ont besoin d'être sauvés. Et moi, j'ai été surpris souvent. Hein. Les gens auxquels je ne m'attendais pas, c'était eux qui étaient les plus sensibles à l'évangile. Hein. Au départ, c'est inquiétant, on se dit, oula, qu'est-ce qu'il va penser? Et puis, c'est la personne qui avait le plus besoin d'évangile et qui le manifeste en plus. Et bien sûr, la crainte de la réputation. Alors, parfois, c'est compliqué pour moi. Quand on me demande parfois, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, ça, c'est quand j'ai dans les administrations. Qu'est-ce que vous faites? Ou quand je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai dit que je suis chauffeur ou je l'ai dit que je suis pasteur? Voilà. Donc, alors, j'ai dit chauffeur. Ce qui est connu, on va dire, et pasteur, parce que c'est ce que, voilà. Mais est-ce que c'est mon métier? Donc c'est un peu, parfois un peu étrange, comme, voilà. Mais bon, c'est toujours un moyen de témoigner quand on dit je suis pasteur. Franchement, pour nous, c'est facile. Hein. Il suffit d'être pasteur pour pouvoir avoir une porte ouverte pour annoncer l'évangile. Donc c'est un atout, finalement. Hein. C'est un atout. Alors, est-ce que nous sommes prêts, et je vais bientôt terminer, hein. Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour protéger ce que Dieu nous confie? Parce que c'est ce que Joseph a fait. Il a fait des sacrifices pour protéger Marie et pour protéger le Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices pour protéger notre sainteté? Notre pudeur, là aussi. Les jeunes, faites attention, ne vous habillez pas comme les gens du monde. C'est un témoignage déjà, ça. Ne vous dénudez pas, ne faites pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour l'Église de Jésus-Christ? Pour l'Église de Jésus-Christ, pour laquelle il est mort, qu'il a versé son sang. Est-ce que nous sommes prêts à nous sacrifier pour notre famille en Christ? Pour l'Évangile? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour protéger ce que Dieu nous a confié? Qu'est-ce que Dieu pourrait vouloir nous demander d'abandonner? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, Dieu pourrait me demander d'abandonner pour que ce plan avance? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui pourrait être vraiment un blocage, hein, on va dire, au plan de Dieu? Pour les parents, quel sacrifice vous faites pour que vos enfants puissent grandir dans le Seigneur? Est-ce que c'est normal que vos enfants ne vont pas, en classe du dimanche, par exemple? Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas une formation biblique? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Jusqu'à quel point on peut se sacrifier pour ça? Jusqu'à quel point on peut se sacrifier de rester dans une église qui nous énerve juste pour voir nos enfants grandir? Vous voyez comment c'est pas... Ne décide pas les choses comme cela. Sommes-nous prêts à servir l'Église malgré nos contraintes personnelles? Le temps, les loisirs, parfois je vois des parents qui, le dimanche matin, partent avec les enfants faire du sport. Et la petite, après, ou le petit, hein, devient très bon dans son sport, et là, ils sont pris dans le piège. Parce que tous les dimanches, il faut y aller, parce qu'il y a des compétitions le dimanche. Je sais ce que c'est, j'ai fait de l'athlétisme. J'ai arrêté l'athlétisme, pourquoi? Parce que le dimanche, il y avait des compétitions. Bon, je ne suis pas en train de glorifier, je suis en train de dire que tu as fait un bon choix. Parce que ceux qui ont fait l'athlétisme avec moi à l'époque, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Rien de bon, moi. Bon, peut-être que j'avais compris aussi que je n'étais pas très bon non plus, peut-être, je ne sais pas. Je n'étais pas très doué, voilà. Mais j'ai beaucoup appris par l'athlétisme. J'ai compris la vie chrétienne par l'athlétisme. La persévérance dont on a parlé ce matin. L'athlétisme. Par contre, si vous pouvez vraiment inscrire vos enfants pour faire de l'athlétisme, un sport, il apprend beaucoup de choses. Ne tombez pas dans le piège des compétitions dimanche. Ça, c'est le piège. C'est le piège. Est-ce que, par sacrifice, en tant que parents, on peut renoncer à nos ambitions personnelles pour que nos enfants puissent grandir vers le Seigneur? Ambition personnelle, par exemple, on vous dit, vous déménagez dans telle ville, parce que le métier que vous attendez là-bas, vous allez gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros. Mais dans cette ville, il n'y a pas d'église. Beaucoup de chrétiens se sont fait avoir comme ça. Ils ont déménagé par rapport à leurs ambitions personnelles, et les enfants se sont retrouvés dans une situation où il n'y a pas d'église. Comment on fait? Est-ce que je suis prêt à quitter mon métier lorsque je découvre la foi en Christ parce que mon métier me met dans une situation où je suis tout le temps tenté par le péché? Est-ce qu'en tant que chrétien, je peux travailler dans une boîte de nuit? Est-ce que je suis sûr que je peux travailler dans une boîte de nuit? Est-ce que je peux travailler dans une situation où l'alcool tourne à chaque fois et alors, je suis obligé de goûter parce que ben, voilà, ça fait partie de l'ambiance et que... On a un frère comme cela qui est dans cette situation, il est dans un état, le frère, c'est incroyable. Hein. Il est alcoolique. Il ne peut même plus s'en sortir, et c'est terrible parce qu'il aime le Seigneur, on voit bien qu'il aime le Seigneur. Mais vous imaginez quelqu'un qui est complètement rouge là, hein, et qui va évangéliser. Alors je ne sais pas, avec ma femme parfois je me pose des questions, je me dis mais peut-être que les ivrognes vont se dire, ah ben même les ivrognes sont acceptés par Christ, je ne sais pas, vous voyez? Témoignage est terrible. Vous voyez? Et quand il parle, on voit bien que, vous savez, quand quelqu'un qui est alcoolique parle, on reconnaît ça. Voilà. Et là, il parle de Christ avec ça. C'est, je ne sais pas. Et là, ce qu'on lui fait comprendre, c'est qu'il faut qu'il arrête ce métier-là, qu'il sorte de là. Si tu es tous les jours sous l'alcool avec l'alcool, ben, tu vas passer ton temps à tomber. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour quitter ce travail-là pour le Seigneur, pour ta sainteté, pour la gloire de Dieu? Alors, je vais terminer, bien sûr, frères et sœurs. Le but de ce message, c'est de montrer que nous avons des projets, mais que le plan de Dieu passe avant nos projets. Joseph avait des projets, et ces projets ont été complètement bousculés par le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu bousculer nos projets? Noël, c'est aussi ça. Noël, c'est de se rappeler que c'est l'histoire des personnes qui ont laissé bousculer leur projet. Bien plus des personnes qui ont obéi silencieusement. Marie a obéi silencieusement. Joseph l'a fait, bien sûr. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a été obéissant jusqu'à la croix. C'est difficile à comprendre ça. Hein. Mais le Seigneur Jésus n'est pas un être humain. Hein. Donc ce qu'il a vécu, ce n'est pas normal. Il faut comprendre cela comme cela. Il est pur. Nous, on vit ce qu'on vit parce qu'on est des pécheurs. Ce sont les conséquences du péché. Mais lui, il a vécu ces choses-là alors qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il a appris cela. Et c'est pour cela que désormais, on peut compter sur lui parce qu'il sait ce que nous vivons. Mais ça, ça ne vient pas des êtres humains, ça. Ce n'est pas humain, ces écrits-là. C'est vraiment divin. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut penser. Ce n'est pas des choses auxquelles on peut penser. Et le Seigneur Jésus a été obéissant juste au bout. Alors, si nous avons des projets, laissons le Seigneur bousculer nos projets pour que s'accomplisse son plan dans notre vie. C'est la seule façon pour nous d'être heureux. Ne mettons pas des barrières, ne mettons pas des blocages comme cela à la volonté de Dieu. Ne dites pas parce que j'ai fait tel métier, c'est pas possible que Dieu m'appelle pour faire ça. Parce que je suis dans telle situation, c'est pas possible que Dieu m'appelle à faire ça. Non, soyons prêts à ce que Dieu bouscule nos projets. Rappelons-nous désormais que Noël, lorsqu'on dit joyeux Noël, ça veut dire des personnes qui sont prêtes. Dieu bouscule leur projet. Soyons obéissants comme Joseph. Alors, j'ai envie de vous dire joyeux Noël, mais joyeux Noël à tous dans l'obéissance silencieuse, en laissant Dieu bousculer nos projets. Retenez ça toute la semaine. Laissons Dieu bousculer nos projets. Amen.